des réveils de l'époque de Moody. Et nous étions arrêtés au moment où, en 1861, éclate la guerre civile que les non-américains appellent la guerre de sécession. Moody va se trouver exempté du service militaire, mais il va se porter volontaire pour le secours aux blessés. Et pendant les 4 ans de cette guerre, il va se montrer d'un courage exemplaire. Et il, plus de 10 fois, il sera en première ligne pour donc secourir ainsi ceux qui ont besoin de l'être. Et ça va être évidemment un témoignage très très important qu'il va donner là par son dévouement, son courage. La guerre finie, il revient à son école du dimanche et à l'Union chrétienne de jeunes gens. Et entre-temps, il a abandonné son métier. Et là, il a décidé de se consacrer entièrement à l'œuvre de Dieu. Quand il revient, dès le début, il se trouve devant un auditoire de 600 élèves à l'école du dimanche. N'est-ce pas ? Les auditoires grossissent. Et il va bientôt se trouver devant des auditoires qui dépassent les 1500 assistants à ses cours, de telle sorte que ne pouvant plus maîtriser des nombres si importants, il va former des moniteurs pour le seconder dans cette tâche. Et c'est alors que devant le nombre de ceux qui se convertissent, pour le suivi, logiquement, il conseille à ceux qui se convertissent d'aller dans des églises existantes, mais beaucoup de ces convertis-là, on ne se sent pas tellement à l'aise, tant et si bien qu'il va créer une nouvelle église pour ceux qui se convertissent ainsi. Et là, il va faire office de pasteur, en quelque sorte, sans l'avoir véritablement cherché. Il avait essayé plutôt de s'investir dans des tâches d'anciens, d'une manière générale, mais par la force des choses, il va se trouver propulsé donc à une tâche pastorale. Et c'est là qu'il va donc faire ses premières armes de prédicateur, immédiatement avec un grand succès. Bien qu'il soit un autodidacte, qu'il n'ait pas de formation pastorale officiel et qu'il soit d'ailleurs considéré comme un laïc à cause de cela, c'est pas, il va se révéler rapidement un prédicateur hors pair, doué d'un talent oratoire peu commun et qui va ainsi attirer des foules, avec évidemment une accentuation très forte sur le ministère d'évangéliste. Ce qui fait beaucoup aussi pour son succès, c'est que il a une prédication très simple, parce que c'est lui-même un homme simple, qu'il aime illustrer par des images, des histoires tirées de son expérience ou des expériences des autres, qui passent très très bien vis-à-vis des milieux populaires auxquels il s'adresse. En 1867, il y a des nouveaux bâtiments à l'IMCA, c'est-à-dire l'IMC, comment on dit en français, Union chrétienne des jeunes gens chrétiens. Qui est donc en principe le centre de son activité. Il continue toujours à militer dans ce mouvement. Et voilà que peu après, ces bâtiments sont détruits par un incendie. Il en construit d'autres, beaucoup plus grands. Et par la foi, il va construire ce qui deviendra le plus grand bâtiment de tout Chicago à cette époque-là. Lui-même prend conscience qu'il a des lacunes au point de vue biblique, etc. Et outre les nombreuses activités qui sont les siennes, il va étudier la Bible à fond. Il passe des longues heures le soir, n'est-ce pas, à étudier seul la Bible pour justement essayer de compenser ces lacunes qu'il sent et qui sont nécessaires justement pour la poursuite de son ministère. C'est en 1861, qu'il organise une première convention au cours de laquelle on peut parler d'un réveil qui commence à se manifester. Alors, c'est dans ce temps-là qu'il a été amené à construire ces nouveaux bâtiments de l'IMCA, Et là, il refuse, il prend le principe de tous les hommes de Dieu, notamment celui qui fut celui de Georges Müller, c'est pas, il ne veut pas de dette. Ça, c'est un principe absolu chez lui. Mais il se sent autorisé à faire des appels d'argent à ses auditoires, c'est pas, bon, ce que Georges Müller n'aurait pas fait, n'est-ce pas? Bon, enfin, ça, c'est... dans la mesure où ça reste sobre, à la limite, il n'est pas question de le juger. Et en 1863, donc, alors qu'il est âgé de 36 ans, il inaugure les nouveaux bâtiments de l'IMCA. En même temps où il prend conscience de ses lacunes dans le domaine des connaissances bibliques, il se rend compte aussi que sa vie est trop remplie. Et que là, il arrive à un stade où il ne peut plus faire face à tout ce que toutes les activités qui sont les siennes. C'est alors qu'il aura cette phrase qui est très intéressante, n'est-ce pas ? L'exercice du ministère tue le ministère. C'est-à-dire qu'on peut fonctionner simplement sans se ressourcer soi-même, sans avoir un contact avec le Seigneur. C'est à cette époque-là qu'il va épouser Emma Charlotte Revel, qui est la fille d'un constructeur de bateaux et qui est institutrice, n'est-ce pas ? Donc une fille qui a certains niveaux. Et en 1867, il va se rendre en Angleterre. Il va se rendre en Angleterre parce qu'il a entendu parler justement du réveil des frères de Plymouth et il est intéressé par ce réveil. Et en même temps, il espère là-bas apprendre ce qui va lui être utile justement pour son ministère. C'est à l'occasion de ce voyage qu'il va rencontrer Spurgeon au Metropolitan Tabernacle et ils vont devenir amis. Moody va être très très impressionné par Spurgeon, comme on l'a vu quand on a étudié la vie de Spurgeon. Et il se sent tout petit vis-à-vis de Spurgeon. Il a une grande admiration pour cet homme. Et en particulier, on peut dire qu'il a même certains complexes vis-à-vis de lui, parce que justement, lui, il est issu du rang. Il n'a pas l'érudition, il n'a pas les talents d'écrivain, d'orateur, bien qu'il ait des talents d'orateur, mais pas au niveau de Spurgeon. C'est un autre style. Spurgeon est plus un pasteur, un apôtre, pourrait-on dire, tandis que Moody est un évangéliste populaire, même s'il a un grand succès, bien sûr. Il se rend à Bristol et il visite également Georges Müller, avec lequel aussi il deviendra ami. Et là, il écoute un prédicateur qui se nomme Henry Morsehouse et qui va aussi devenir son ami. Il l'entend prêcher sur l'amour de Dieu, sur Jean 3,16, premier dimanche. Et il est enthousiasmé par l'exégèse, enfin le parti que ce prédicateur tire de ce texte. Et alors, il revient la semaine suivante pour entendre à nouveau prêcher ce prédicateur qu'il admire. Moody, qui est un grand homme de Dieu, est un homme très très humble. Ça, c'est quelque chose qui le marque justement parce qu'il est conscient de ses faiblesses, etc. Et il restera dans cette humilité toute sa vie. D'ailleurs, c'est une des raisons peut-être aussi pour lesquelles Dieu l'a tellement béni et Dieu l'a tellement utilisé. Voilà, le deuxième dimanche, le prédicateur prêche à nouveau sur Jean 3,16. Alors là, on vous dit un petit peu surpris qu'on puisse prêcher deux fois de suite sur le même texte et pourtant... Il réalise bien que ce n'est pas une répétition de ce qu'il a entendu le dimanche précédent. Troisième dimanche, revient à nouveau Jean 3,16, l'amour de Dieu. Et plusieurs dimanches de suite, ainsi, le seul texte qui est développé, c'est justement Jean 3,16. Et Moody est tellement impressionné, tellement frappé par cette mise en évidence de l'amour de Dieu qu'il va décider de faire de l'amour de Dieu l'axe essentiel de sa prédication. Ça ne veut pas dire qu'il ne prêchera que sur l'amour de Dieu, mais ça va être le point où il va insister le plus dans ses prédications et les réveils de Moody vont être axés autour de l'amour de Dieu. Alors que les réveils de Finney étaient axés sur la sainteté de Dieu, Finney était le prédicateur de la sainteté de Dieu, Moody, lui, va être le prédicateur de l'amour de Dieu. Et c'est alors qu'il s'ouvre de cette... de cette décision à ce prédicateur et il lui demande conseil. Il lui dit qu'il est conscient qu'il se sent un tout petit garçon à côté de l'érudition de ces gens-là. Et alors, le prédicateur va lui donner un conseil important. Il va lui dire, je te conseille de ne plus lire que la Bible. Et Moody va s'attacher à cette exhortation. Et le seul livre qu'il lira pendant sa vie, n'est-ce pas, le reste de sa vie, enfin, le seul livre qu'il lira à fond, en tout cas, n'est-ce pas, ça veut pas dire que ça et là, il ne lira pas autre chose, mais ça va être la Bible. Et c'est devenu proverbial, n'est-ce pas, Moody était l'homme d'un seul livre. D'ailleurs, je crois que ce sera à son oraison funèbre, c'est ce qu'on dira de lui, n'est-ce pas, il était l'homme d'un seul livre. Alors évidemment, ça ce sont des conseils qui sont donnés dans des contextes très particuliers. Il ne faudrait pas croire que, vouloir imiter, n'est-ce pas, et par exemple ne prêcher que sur l'amour de Dieu ne lire que la Bible, n'est-ce pas. C'est un conseil qui a été donné dans un temps particulier, dans un contexte particulier, à un homme qui avait un background particulier. Mais c'est vrai qu'il y a là quelque chose à retenir malgré tout, même si lire la Bible, c'est quand même la chose première, la chose essentielle. Et c'est vrai, l'ami de Moody avait raison de le mettre en garde contre la tentation parfois de bien des prédicateurs, des hommes de Dieu, de lire des livres sur la Bible plutôt que de lire la Bible. Ça, c'est toujours le danger qui se place devant tous ceux qui, non seulement ceux qui ont une charge dans la prédication, mais également qui peut aussi atteindre même des chrétiens qui, séduits par toutes sortes de choses qui peuvent s'écrire sur la Bible, fort belles au demeurant, fort intéressantes, n'est-ce pas, mais aussi les détourner de ce qui est l'essentiel, qui est quand même le ressourcement dans la parole de Dieu. Alors, dans cette communion avec le Seigneur, qu'il va développer à la lecture de la parole de Dieu, Moody va mettre aussi au point sa stratégie d'évangélisation, si j'ose dire. Et Moody, là, réagit comme un authentique évangéliste, et son slogan va être celui-ci, « Gagner les hommes à nous pour les gagner à Christ ». Ça peut paraître un peu prétentieux, mais enfin, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que il faut l'évangéliste, ça fait partie de son ministère, doit être un homme chaleureux, doit être un homme attractif, n'est-ce pas, par son caractère, par son contact, qui a le contact, n'est-ce pas, et qui exerce une certaine influence, une certaine attraction sur ceux qui l'entourent, n'est-ce pas. Mais Moody était un homme assez humble, je l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas en rester là et ne pas attirer les hommes à lui pour son intérêt personnel, mais ensuite pour les conduire vers le Seigneur. Et c'est vrai que ça, c'est une des caractéristiques de tout évangéliste. Tout évangéliste est un homme qui, sur le plan du caractère, ça, Donald G. l'avait bien vu, n'est-ce pas, disant que les dons surnaturels s'exercent dans le naturel. Il y a une complémentarité entre les dons naturels de l'individu et puis les dons surnaturels qu'il reçoit de Dieu. Et Donald G. disait cela, si vous n'avez pas de rayonnement autour de vous, si vous n'avez pas le contact facile, si vous êtes timide, si vous n'avez pas une certaine jovialité, etc., ne vous attendez pas à ce que le Seigneur fasse de vous un évangéliste. Cherchez plutôt ailleurs et cherchez plutôt dans une autre direction les dons et les talents que le Seigneur vous a donnés et qu'il veut aussi vous donner dans le domaine justement du surnaturel. C'est à cette époque-là aussi qu'il rencontre Sankey. Sankey, qui est un homme d'origine anglaise, issu d'un milieu puritain, et qui est un musicien de haut niveau. Et en l'entendant chanter et jouer de la musique, Moody est frappé, n'est-ce pas, et se dit, bien, si cet homme pouvait mettre au service de Dieu les talents musicaux qu'il a, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Et au cours de ces rencontres avec lui, alors que Sankey est déjà un homme, un chrétien, quelqu'un qui est converti, qui a fait des expériences avec le Seigneur, Moody s'ouvre à lui et lui dit, écoutez, voilà, est-ce que éventuellement vous ne considéreriez pas ce que je vais vous dire comme un appel de Dieu? Et voilà, moi j'ai sur le cœur de vous demander de quitter votre métier et puis de vous mettre au service de Dieu, si vous voulez bien m'accompagner dans mes tournées d'évangélisation pour chanter, quoi, pour appuyer en quelque sorte le message, la parole de Dieu par la musique, par le chant. Pour Sankey, évidemment, c'est quelque chose qui l'assomme un peu, parce que lui était chrétien, certes, converti aussi, mais bon, n'avait jamais envisagé de tout abandonner de cette manière-là, pensait faire carrière tout en servant le Seigneur comme un chrétien normal. Mais voilà que là, il est pris de court et il demande 8 jours de réflexion. Et ce qui lui coûte le plus, c'est que il se rend compte qu'au point de vue salaire, ça va complètement changer, n'est-ce pas ? Et comme il connaît quand même bien sa vie par son chant, bien, c'est quelque chose qui lui pose problème. Et puis finalement, au bout de 8 jours de prière, de réflexion, il sent que c'est vraiment l'appel de Dieu, que c'est le pas de la foi, et il accepte donc de tout abandonner pour suivre Moody. Et ça va être le début de 28 années de collaboration ininterrompue entre Moody et Sankey. Et Sankey était un homme qui, d'abord sur le plan musical, évidemment, techniquement, était un homme remarquable, un musicien de très haut niveau, chanteur de très haut niveau, compositeur également, n'est-ce pas ? Mais c'était aussi un homme qui, parce que justement, il avait abandonné sa vie au Seigneur à fond, s'était consacré totalement au Seigneur, c'était un homme sur lequel reposait une onction de l'esprit extraordinaire. Et les deux hommes ont formé un duo absolument hors pair, n'est-ce pas ? Qui se complétait merveilleusement. Et ceux qui ont assisté aux campagnes d'évangélisation de Moody disent que donc, en principe, l'assemblée chantait quelques chants, puis ensuite c'était Sankey qui intervenait, qui chantait en solo, c'est pas s'accompagnant lui-même ou accompagné par piano, orgue, etc. quoi. Et il y avait une telle onction sur les cantiques chantés par Sankey, c'est pas que parfois Moody n'avait même pas besoin de prêcher, c'est pas les âmes se lever par centaines et s'approcher de l'autel pour donner leur vie au Seigneur simplement en entendant la musique de Sankey, n'est-ce pas, et l'onction de l'esprit descendait, les gens se mettaient à prier et tout ce qu'avait à faire Moody, c'était passer de l'un à l'autre pour exhorter, pour prier pour l'un, etc. Quelquefois, c'était comme ça que ça se passait. Alors bien entendu, là, c'est pareil, il ne faut pas que ça devienne une règle maintenant dans bien des lieux, n'est-ce pas, dans bien des campagnes d'évangélisation, il y a comme ça des gens qui chantent en solo. Bon, c'est très bien. Billy Graham a repris un petit peu cette technique-là avec George Bevelacqua, qui était aussi un chanteur de Negro Spirituals de très haut niveau et qui a fait ce qui a été pour Billy Graham ce que Sankey a été pour Moody, et avec aussi beaucoup de résultats. Bevelacqua était un homme exceptionnel sur le plan musical et puis sur le plan aussi de la consécration, c'est sûr. Mais certains ont voulu imiter, c'est toujours très mauvais d'imiter, et puis et certains que c'est pas quand même quelque chose de normal, c'est l'exception quand il n'y a pas besoin de prédication, enfin, c'est quand même ça l'exception. La règle, c'est quand même que la parole de Dieu soit première. D'ailleurs, Moody en était conscient, et il disait ceci, n'est-ce pas ? La musique est comme les plumes de la flèche, mais la flèche, c'est la parole de Dieu. Et les plumes de la flèche aident les mots qui sont la flèche elle-même à pénétrer dans les cœurs, la parole de Dieu qui pénètre dans les cœurs. Et il insistait beaucoup sur le fait que la musique ne doit pas prendre la première place, mais c'est doit être au service, en quelque sorte, de la parole. Et c'est à cette époque-là, donc, que ses amis lui font don d'une petite maison meublée dans laquelle il peut s'installer, qui lui sert de pied-à-terre. Et en même temps, il est conscient aussi qu'il a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Il a un bon collaborateur en la personne de Sankey, il a lui-même des dons oratoires peu communs, ça il en est conscient, mais ça ne suffit pas, il est conscient qu'il ne suffit pas. Il faut la bénédiction du Saint-Esprit, il faut la puissance du Saint-Esprit. Et c'est alors qu'il retourne donc aux États-Unis avec Sankey. Et là, donc, il va commencer ce grand ministère de 28 années de réveil, pourrait-on dire. Réveil au sens, alors, réveil d'évangélisation. pas du réveil des églises, un petit peu. Bon, c'est un peu en cela qu'il est différent de Finet, mais finalement, c'est évidemment deux ministères qui se complètent. Et là, il va prier pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et cet homme, ce grand homme de Dieu, si humble, n'est-ce pas, va simplement passer des heures avec deux sœurs âgées, de retour à Chicago, n'est-ce pas, pour leur demander de prier avec elles, toutes ces deux sœurs, qui sont des femmes très simples, n'est-ce pas, pour qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu va répondre à cette prière d'une manière assez étonnante, n'est-ce pas, bien entendu. Moody et ses collaborateurs prient pour que le feu du Saint-Esprit descende. En fait, le feu du Saint-Esprit, c'est le feu tout court qui va descendre quelque temps plus tard dans Chicago et éclate donc cette année-là, en octobre 1871, ce qu'on a appelé dans l'histoire le grand incendie de Chicago. La ville de Chicago est ravagée par un gigantesque incendie. Beaucoup de maisons à cette époque-là sont encore des maisons de bois et ça flambe comme de la paille, n'est-ce pas ? Et les services de pompiers ne sont pas suffisamment développés à cette période-là encore. Et la catastrophe est épouvantable à Chicago, ça va rester donc dans l'histoire. Et pendant deux jours durant, l'incendie va ravager la ville. Alors, quand l'incendie est terminé, qu'on constate les dégâts, Moody attire l'attention de ses auditeurs, disant bien, c'est un avertissement de Dieu, c'est un jugement de Dieu, pour que vous vous tourniez vers le Seigneur, vers son amour, etc. Et il les exhorte à une décision immédiate. Et effectivement, le feu de l'esprit, le feu pour lequel ils avaient prié, pas du tout le feu de l'incendie, n'est-ce pas, mais le feu du réveil, descend à partir de ce moment-là, et des milliers de personnes vont se tourner vers le Seigneur dans les mois qui viennent, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Entre-temps, Moody a construit un lieu de culte, un nouveau lieu de culte, qu'il inaugure le 24 décembre de la même année, et où il accueille 10 000 personnes. Bon, cette même année, il est invité à se rendre en Irlande. Il est invité par un évangéliste qui se nomme Henri Vaché. Et c'est là qu'il entend donc la fameuse interpellation qui va marquer sa vie et qui restera aussi célèbre. Henri Vaché déclare du haut de la chaire, « Il faut maintenant que le monde voie ce que Dieu peut faire avec, pour et par un homme » est entièrement consacré. Et Moody répond dans son cœur, eh bien, je serai cet homme-là. Et à nouveau, ce jour, il reconsacre sa vie au Seigneur. Et là, le Seigneur lui donne la vision du réveil. D'abord, des masses en Angleterre qui ont besoin de se tourner vers le Seigneur. Et c'est ainsi que dans les années, pendant deux ans, 1873-1875, il va passer son temps à intervenir en Angleterre. Il va évangéliser essentiellement l'Angleterre. Il s'embarque donc avec sa femme et puis avec le couple Sankey pour l'Angleterre l'année suivante. Et là, il demande à toutes les communautés de s'unir pour prêcher l'Évangile, pour l'aider justement à prêcher l'Évangile. D'ailleurs, Billy Graham est un pur disciple de Moody. Enfin, les méthodes de Billy Graham sont exactement celles qui ont été mises au point par Moody. Moody voyait l'évangélisation des masses comme l'effort de toutes les communautés qui sont rassemblées dans un même lieu. Moody était un homme qui avait une vision très large de l'Église. On a vu qu'il avait même des contacts avec l'évêque catholique de Chicago. Pour lui, il n'y avait pas du tout d'exclusive. Quand il était question du salut des âmes, toutes les églises devaient oublier leurs différends, devaient oublier les points de doctrine qui pouvaient éventuellement les diviser, même si, au demeurant, elles pouvaient être légitimes. Mais quand il s'agissait d'évangélisation, tout le monde pouvait s'unir sur cette base d'arracher des âmes à l'enfer. Et par conséquent, quand il arrive en Angleterre, avec Sankey, il invite tout de suite toutes les communautés à s'unir dans ce grand mouvement d'évangélisation qu'il envisage. Et alors, c'est là qu'il va connaître des illusions. parce que, bien loin de répondre à cet appel, les communautés évangéliques anglaises, qui sont très divisées, vont répondre diversement. Certaines vont s'engager à fond avec lui et vont le soutenir. Ce sera par exemple le cas de Spurgeon. Spurgeon va prêter son concours à fond à Moody, n'est-ce pas ? D'autres, pour des raisons plus ou moins valables, vont étaler au grand jour leur division. Bon, c'est l'époque où en Angleterre intervient la fameuse révolution industrielle que nous avons étudiée, que nous avons vue en particulier le réveil salutiste, et il va se heurter à l'opposition du mouvement d'Oxford en particulier, c'est-à-dire justement des fameux frères de Plymouth qui l'avaient pourtant intéressé et dans lequel il voyait quelque chose de tout à fait positif. D'ailleurs, le réveil des frères de Plymouth, comme son nom l'indique, était un réveil. Et souvent, hélas, ceux qui ont été les instruments d'un réveil, ça c'est aussi une des lacunes qu'on voit dans l'histoire des réveils, c'est que ceux qui ont été les instruments d'un réveil ont tendance à le confisquer. C'est-à-dire, le réveil, c'est notre chose. Hein, comme un petit peu les Philistins quand Isaac avait recreusé les puits, l'eau est à nous. Et quand vient un deuxième réveil, eh bien, ceux qui ont vécu un premier réveil le regardent avec suspicion, voire parfois s'opposent. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec le mouvement de Pentecôte, quand il est venu au Pays de Galles, il y avait eu le réveil du Pays de Galles, le mouvement de Pentecôte a été reçu d'une manière mitigée. Quand le mouvement de Pentecôte est venu en France aussi et qu'il a marché sur les brisées du réveil des brigadiers de la Drôme, les brigadiers de la Drôme se sont opposés au réveil de Pentecôte et ça a été la fin du réveil des brigadiers de la Drôme à partir de ce moment-là. Dieu avait prévu que l'on aille plus loin et comme ceux qui avaient vécu ce premier réveil refusaient d'aller plus loin, bien le réveil s'est arrêté, quoi. Alors, c'est ce qui se passe ici avec le réveil de Plymouth. Le réveil de Plymouth n'entre pas dans la vision de Moody. Et il y a opposition. Il y a opposition pour le plus grand mal, n'est-ce pas, du réveil de Plymouth, pas du réveil de Moody. Moody fera sans eux parce que le Seigneur est dans cette affaire-là et que le Seigneur ne se laisse pas arrêter par les oppositions. Le 13 janvier 1873, donc, les couples Moody et Sankey débarquent à Liverpool. Quand il revient en Angleterre, il a d'abord la tristesse de voir que certains de ses amis qu'il avait rencontrés à l'occasion de son premier séjour en Angleterre sont morts. Et ça, c'est quelque chose qui l'attriste considérablement. Et il arrive donc le lendemain à York. Et là, une foule déjà nombreuse l'attend. Et dès qu'il arrive dans la ville, on l'enlève pratiquement de force pour l'emmener au lieu où on l'attend. Et vous vous dites, mais je n'ai pas le temps de me préparer, qu'est-ce que je vais dire ? Je n'ai même pas préparé de prédication, etc. Tant pis, tu te débrouilleras, le Seigneur te donnera quelque chose pour cette foule qui est là, qui a faim et soif de la parole de Dieu, qui attend quelque chose. Et donc Moody se présente devant cette foule sans aucune préparation, sans savoir sur quoi il va prêcher. Et c'est le ciel sur la terre ce jour-là. Moody a une parole extrêmement forte qui lui est donnée à l'heure même, comme dit la parole de Dieu, n'est-ce pas ? Et des centaines de personnes se tournent vers le Seigneur dans cette fameuse première réunion du grand réveil d'Angleterre qui a eu lieu au moment où Moody arrive dans ce pays. Alors là, c'est pareil, ce sont des choses exceptionnelles, il ne faut pas en faire une règle. Je me souviens d'un garçon qui voulait se préparer pour le service de Dieu. Et quand on lui avait demandé de préparer un petit message un jour, et je lui avais demandé avant, je lui ai dit, mais sur quoi tu vas prêcher ? Ah, je ne sais pas, le Seigneur va me donner ça, comme ça, tout de suite, quand je vais me lever, le Seigneur va me donner ce que je vais avoir à prêcher. Alors, effectivement, il s'est levé, il a essayé de prêcher. Je dis essayer, n'est-ce pas ? À la fin de ce qui est, quand il s'est rassis, ou 10 minutes, un quart d'heure, personne ne savait ce qu'il avait voulu dire, et lui non plus. Alors, ça, c'est les choses exceptionnelles, dans des conditions exceptionnelles. D'ailleurs, Moody lui-même n'a pas refait ça tous les 4 matins. Là, c'est parce que ça s'est trouvé comme ça. Mais en temps utile, en temps normal, évidemment, Moody prenait un temps long, comme n'importe qui, n'est-ce pas, pour se préparer à recevoir du Seigneur ce qu'il avait à dire, n'est-ce pas. Moody savait à la fois prêcher à des foules, et puis il savait aussi prêcher à des auditoires, des petits auditoires. Et il n'hésitait pas à aller pour prêcher à quelques dizaines de personnes. Ça ne sentait pas du tout diminué, n'est-ce pas, de prêcher devant des petits auditoires. Et là, il a aussi la surprise de voir d'autres oppositions naître. Et des oppositions naître des milieux plutôt high church, disons, haute église, pour une raison très simple, c'est qu'il n'est pas considéré comme clerc, il n'est pas considéré comme pasteur, parce qu'il n'a pas de diplôme. Et on le considère comme un laïc. Et à York, qui est sa première étape, eh bien, les églises officielles de la ville s'opposent à lui. Qu'est-ce que c'est que cet homme qui n'a pas étudié, comme on disait, des apôtres, n'est-ce pas, et qui vient ici, ces hommes du peuple sans instruction, comment se fait-il que, finalement, il ait plus de succès que nous? Peu importe, le Seigneur travaille avec son serviteur. De York, Moody passe à Newcastle, puis l'Écosse, puis l'Irlande. Ensuite, il revient en Angleterre, à Manchester, à Sheffield, à Liverpool. Et puis enfin, il s'attaque à la capitale, Londres. Pendant 6 mois, il va prêcher à Londres. Et là, il va rassembler des milliers de personnes. C'est intéressant aussi de noter que quand il est en Irlande, l'Irlande qui commence à être déchirée par la guerre civile qui dure encore, guerre civile entre catholiques et protestants, c'est ça ? Et là, Moody va, à côté de son travail de prédication, essayer de travailler au rapprochement des églises, et notamment des églises catholiques et protestantes, au moins sur le plan justement de cesser de se faire la guerre. Mais vainement, ça, il échoue dans ce domaine-là. Au contraire, il est l'objet de bruits malveillants, de calomnies diverses, et son ministère d'évangéliste connaît toujours le même succès en Irlande, ses tentatives de réconciliation échouent complètement. Alors, il retourne en Angleterre, et là donc, il va avoir ce grand succès à Londres. Cette ouverture auprès des catholiques, justement, lui vaut aussi des critiques nombreuses. Moody n'est pas un homme qui est complaisant vis-à-vis des erreurs catholiques, pas du tout. Il les dénonce au besoin, n'est-ce pas ? Mais vis-à-vis des hommes et des femmes catholiques, des personnes catholiques, c'est un homme qui fait preuve d'ouverture. Et ça, surtout en Irlande, c'est quelque chose qui passe très très mal et qui finalement va aussi traverser la mer. Quand il revient en Angleterre, les protestants irlandais avertissent les protestants anglais en disant « Attention, ce bonhomme-là est dangereux, il fréquente les catholiques, etc. etc. » Et ça nuit évidemment aussi à la réputation de Moody. Quand il arrive à Edinburgh, en Écosse, il va se trouver confronté à une autre forme d'opposition, ceux des libres-penseurs. Alors, les libres-penseurs engagent une campagne de dénigrement contre lui, dans la presse en particulier. Bonne occasion pour Moody. Moody débarque un soir dans leur cercle, au siège de leur cercle, et dit « Allons-y, discutons. Vous n'êtes pas d'accord ? Eh bien, allons-y, discutons. » Et à la suite de ces discussions, plusieurs libres penseurs se convertissent. Tant Moody est persuasif, et en même temps, autant dire que l'opposition là-bas que les libres penseurs avaient tenté de mettre au point est en l'air. À la suite de ça, les journaux annoncent que des libres penseurs se sont convertis, et ils écrivent eux-mêmes leurs témoignages, comment ils se sont convertis, etc. C'est la déconfiture totale, n'est-ce pas, de tous ces gens-là, et le grand succès, n'est-ce pas, à Edinburgh. À Edinburgh, le premier ministre anglais, Gladstone, n'est-ce pas, qui est un chrétien convaincu, un homme converti, n'est-ce pas, vient assister aux réunions de Moody et tient à lui serrer la main, le rencontrer personnellement, évidemment, pour l'ancien marchand de chaussures qu'il était, n'est-ce pas, le petit marchand de chaussures de Chicago, n'est-ce pas. C'est une consécration extraordinaire. Et puis finalement, la High Church, devant l'intervention de Gladstone, peut-être que ça a joué, n'est-ce pas ? La High Church se détend et l'archevêque de Canterbury, pendant qu'il prêche à Londres, va publiquement lui apporter son appui et encourager les chrétiens anglais et même les non-chrétiens, n'est-ce pas, à participer aux réunions de Moody. Alors, c'est vraiment extraordinaire. C'est là donc que Spurgeon l'invite à prêcher dans son tabernacle métropolitain. Et Moody, qui avait refusé la première fois parce qu'il ne se sentait pas au niveau de Spurgeon, là, va accepter. Il va prêcher avec Spurgeon, n'est-ce pas ? Et une excellente collaboration, une excellente communion va s'établir entre les deux hommes, n'est-ce pas, qui vont rester amis par la suite. En 1875, Moody rentre aux États-Unis. Aux États-Unis, qu'il trouve un pays en transformation rapide. On vient de découvrir des nouvelles richesses, c'est l'époque de la ruée vers l'or, et beaucoup d'Américains ont soif d'enrichissement facile et rapide. C'est aussi le début de la découverte du pétrole, etc. L'Amérique attire à cause de cela, n'est-ce pas, des foules d'immigrants qui viennent du monde entier, dans l'espoir aussi d'établir des fortunes rapides. Et Moody revient dans une situation donc qui est très différente de celle qu'il a quittée, même si finalement il n'est pas resté très loin de son pays. Or, quand il revient aux États-Unis, il constate que sa réputation l'a précédé. On a entendu parler aux États-Unis des grandes campagnes d'évangélisation qu'il a faites en Angleterre et dans les îles britanniques, et il est attendu. Il est attendu par le pays tout entier. Moody, maintenant, a une réputation nationale aux États-Unis. Et il va parcourir donc tous les États-Unis jusqu'en 1881, de long en large et en travers, avec de très, très grands succès. Ça, c'est la grande période du ministère de Moody, malgré évidemment des oppositions. Ça, c'est absolument inévitable. En Angleterre, Moody est entré en contact aussi avec William Booth et l'Armée du Salut. Et finalement, alors qu'il s'est lié avec des gens comme George Mueller, avec Spurgeon, il va, tout en reconnaissant qu'il y a une œuvre de Dieu qui se fait au travers du réveil salutiste, il va émettre des réserves vis-à-vis du mouvement salutiste. Et la plus grande réserve qu'il amène, c'est la personnalité de William Booth. Ils estiment que William Booth a tort, n'est-ce pas, d'imprimer ainsi sa marque sur le mouvement et d'en être le patron absolu, de ne pas partager l'autorité avec qui que ce soit. Il est gêné devant les manifestations un peu trop intempestives de l'Armée du Salut, les défilés, les manifestations bruyantes, etc. Et ça lui semble discutable bibliquement, tant et si bien que il va garder toute sa vie une grande réserve vis-à-vis de l'Armée du Salut, tout en reconnaissant encore une fois qu'il y a du bon. En 1878, il organise plusieurs mois de campagne à Baltimore, et c'est un très très grand succès. Puis l'année suivante, 1879, il va passer plusieurs mois à Philadelphie, puis à New York. Et pendant qu'il est à New York, va éclater un réveil parmi les étudiants de l'université de Princeton, qui est l'université de New York. Ce qui est d'ailleurs aussi tout à fait étonnant, que lui, cet homme du peuple sans instruction, est capable d'amener à la conversion et provoquer un réveil parmi la fine fleur de l'intelligentsia américaine de l'époque. Et c'est alors qu'en 1879, il décide de s'installer dans son village natal de Northfield, où il acquiert une vaste propriété et il s'installe là-bas. Non pas pour s'arrêter, non, mais pour en faire simplement son pied-à-terre. À partir de là, il rayonne. Et puis, dans son village natal également, il va construire une école de filles. Une école chrétienne, bien évidemment. Et puis, quelques temps après, une école de garçons qu'il inaugure le 1er mai 1888 et qu'il appelle l'école du Mont Hermon. Ah, non biblique, bien évidemment. Toujours dans le même ordre d'idées, eh bien, son ministère, maintenant, n'est plus local, c'est évident, quoi. C'est un ministère d'évangéliste, un ministère itinérant. Il part de longues semaines. Il essaie quand même de ne plus rester comme il le faisait dans la première partie de son ministère, des mois loin de chez lui. Il a quand même une famille et il s'efforce de limiter ses déplacements à quelques semaines. Mais enfin, les États-Unis, c'est grand. À cette époque-là, il n'y a pas d'avion. Et par conséquent, parcourir les États-Unis, c'est quand même extrêmement éprouvant. Et il éprouve le besoin, par conséquent, de se faire seconder. Et c'est ainsi qu'il crée ce qu'il appelle Chicago Evangelist Society, qui constitue, pourrait-on dire, le support logistique de son œuvre. C'est-à-dire que il a donc dans sa propriété là-bas des collaborateurs et des collaboratrices qui, par exemple, vont planifier, organiser ces campagnes d'évangélisation, prendre contact avec les églises et les unions d'églises qui veulent l'inviter, préparer ces campagnes par voie de presse, par distribution de tracts, par, etc. Répondre ensuite aux courriers, parce qu'il a, il reçoit du monde entier un volumineux courrier auquel il ne peut pas répondre entièrement lui-même. Préparer aussi le matériel, les cantiques, les traités à distribuer, les livres pour le suivi, etc. Bon, aussi, quelques-unes de ses prédications sont imprimées, etc. C'est distribué. Enfin, il y a toute une infrastructure qui se met en place à partir de cette période-là. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup plus tard, cette Chicago Evangelistic Society deviendra l'Institut Moody des sciences, qui existe encore aujourd'hui. Et Moody, qui lui-même n'est pas évidemment un scientifique, c'est pas un intellectuel, mais éprouve le besoin aussi de... c'est l'époque où donc il a contact avec les libres penseurs et choses comme ça. Il éprouve le besoin de confronter la foi à la science. Et il est bien entendu persuadé, comme le sont tous les hommes de Dieu, qu'il n'y a pas de différence fondamentale, d'opposition fondamentale entre la science et la foi, mais c'est quand même l'époque où on commence à combattre la foi au nom de la science. Alors, Moody veut prendre ses détracteurs sur leur propre terrain et il demande à quelques-uns de ses amis qui sont versés dans les sciences de faire des amorces, en tout cas à cette époque-là, c'est pas encore très élaboré, mais de faire des amorces d'études justement de la Bible à la lumière de la science, ou de la science à la lumière de la Bible, comme on voudra, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que parmi le matériel apologétique, le matériel d'évangélisation qu'il distribue et qu'il diffuse à partir de son centre, il y a des traités, puis ensuite des petits livrets qui traitent justement des relations entre la Bible et la foi. Et petit à petit, cet aspect de son travail, de l'aspect du travail de cette société d'évangélisation de Chicago, va s'orienter de plus en plus vers cet aspect-là. De telle sorte que, après la mort de Moody, eh bien, ça deviendra essentiellement un lieu d'étude, justement, des relations entre la science et la foi. Évangéliser, n'est-ce pas, les milieux qui sont touchés, justement, par la critique scientifique. Et l'Institut Moody des sciences aujourd'hui diffuse dans le monde entier évidemment tout un travail justement d'études entre la science et la foi extrêmement intéressant. En 1897, il inaugure une chapelle dans la ville de Northfield parce qu'il n'y a qu'une communauté qui se crée autour de lui et il faut quand même aussi assurer. Une vie d'église à toute l'équipe qui est autour de lui, n'est-ce pas? Alors, quand il est là, c'est lui qui s'en occupe, mais il a aussi des collaborateurs quand il est absent. Cette chapelle, il appelle le monde de la tentation. Et c'est dans cette fameuse année 1897 qu'il va être baptisé dans le Saint-Esprit. Sans savoir aussi de quoi il s'agit, il pense, comme l'avait fait Finney avant lui, n'est-ce pas, que c'est une bénédiction spéciale qui lui est accordée à lui et que c'est pas quelque chose pour les autres. Il faudra attendre, si on est à 3 ans du réveil de Pentecôte, il faudra attendre 3-4 ans plus tard pour que, après la disparition de Moody, d'ailleurs, Moody ne sera plus là quand éclatera le réveil de Pentecôte, pour que finalement on sache que cette bénédiction n'est pas quelque chose qui est réservé à quelques êtres d'exception, mais aussi à tout le monde, n'est-ce pas? Bon, revenons maintenant au ministère d'évangélisation de Moody. En 1875, va évangéliser à nouveau New York et de nombreuses villes de l'État de New York. Et petit à petit, donc, à partir de cette fameuse campagne d'évangélisation de 1875, un certain nombre de jeunes en particulier qui se sont convertis dans ces campagnes d'évangélisation viennent voir Moody disant « nous aussi, on voudrait servir le Seigneur ». Alors, Moody se trouve bientôt avec, on pourrait dire, des dizaines, puis des centaines de jeunes qui se lèvent pour servir Dieu. Alors, il va être obligé de former, n'est-ce pas, des jeunes gens pour le service de Dieu. Et c'est ainsi qu'il crée aussi une école biblique pour former des jeunes. Alors, son but est essentiellement, lui, c'est de former, sa vision, c'est l'évangélisation, c'est de former des pasteurs pour encadrer, pour encadrer les églises qui sont issues de ces campagnes d'évangélisation, soit de former des évangélistes pour le seconder, et puis enfin des missionnaires. Non seulement des gens qui vont rester aux États-Unis, mais des gens qui vont porter l'évangile au-delà des mers, car nous aurons l'occasion d'y revenir, mais nous sommes ici en pleine époque de la grande épopée missionnaire qui va marquer le 19e siècle. Et Moody ne va pas être étranger à ce grand élan missionnaire. Lui-même, personnellement, ne va pas y prendre part parce que son ministère essentiellement tourner autour des États-Unis et puis un peu de l'Angleterre, des pays anglo-saxons, n'est-ce pas ? Mais il a la vision, évidemment, il partage à fond la vision de l'expansion missionnaire. Et de l'école biblique qu'il crée, donc au Mont Hermon, puisque finalement l'école de garçons qu'il avait créée là va évoluer ensuite pour devenir, ou en tout cas à côté, il y aura une école biblique, ça. De cette école vont sortir 260 ouvriers, missionnaires, pasteurs et évangélistes. Et puis, Moody va aussi avoir une autre vision. C'est l'époque où, aux États-Unis en particulier, commence à se répandre la coutume de partir en vacances l'été. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau à cette période-là, mais qui est lié au fait que, précisément, les enfants sont en vacances à cette période-là. Et Moody voit, pendant les mois d'été, les enfants... il y a des enfants qui travaillent avec leurs parents dans des exploitations diverses, agricoles et autres, mais les enfants des villes qui traînent la savate. Et même les enfants... des conférences chrétiennes pour les parents. Plutôt que les parents aillent en vacances à droite ou à gauche, bon, c'est pas encore à cette époque-là, comme aujourd'hui, l'époque des stations balnéaires et choses semblables, ça commence un peu, mais enfin, c'est pas encore très répandu. On prend l'habitude d'aller en visite chez la parenté, de découvrir, etc. Et Moody dit, pourquoi est-ce qu'on n'inviterait pas les gens à passer 15 jours, 3 semaines de réunions, n'est-ce pas ? Et ainsi se créent les conventions et les conférences chrétiennes qui sont maintenant devenues monnaie courante, puisque nous-mêmes nous en organisons avec nos frères de Carré, n'est-ce pas ? Mais bon, ça, c'est à Moody qu'on doit. C'est Moody qui a cette idée d'organiser des temps de vacances qui sont en même temps des temps de retraite spirituelle. Donc, le ministère de Moody va marquer les États-Unis jusqu'à la fin du siècle, puisque c'est la dernière année du siècle, en 1899, qu'il meurt. Jusqu'à la fin de cette période, eh bien, il ne cessera d'entreprendre des grands voyages au travers tout le pays. Occasionnellement aussi, il se rendra à plusieurs reprises en Angleterre pendant ces 10 dernières années de son ministère. Et ce qui va marquer Moody pendant toutes ces années qui marquent l'apogée de son ministère, où il est un des grands, c'est le Billy Graham de cette période-là, où il est aussi connu au 19e siècle aux États-Unis et en Angleterre que les Billy Graham aujourd'hui dans ce pays, n'est-ce pas ? Moody va rester un homme qui va être marqué par deux aspects, une grande humilité. Ça ne lui monte pas à la tête, sa popularité du tout. Il reste le même homme humble qu'il a toujours été, et puis la même consécration. Il se rend à l'automne de 1891 à nouveau en Angleterre. Puis il va se rendre aussi à Paris. Cette même année, il va prêcher, donc entre 1892 et 1894, il prêche à l'oratoire du Louvre. Et puis, cette même année aussi, il va se rendre dans ce qu'on appelle alors la Palestine. Et là, c'est très intéressant parce que c'est l'époque où se rendre dans ce pays-là, c'est pas banal, c'est pas aussi commun que c'est aujourd'hui. La Palestine est un pays un peu comme l'Afrique, c'est une terra incognita, c'est un pays inconnu, infesté de malaria, de bédouins, il y en a qui laissent leur vie, n'est-ce pas ? Et Moody tient à mettre ses pieds sur les traces de Jésus dans son pays. Et aussi avec... Moody entre dans cette perspective de ces chrétiens qu'on appelle sionistes. Je n'aime pas beaucoup ce mot pour ce qui les concerne. Enfin, gardons quand même. Il croit vraiment au rétablissement d'Israël aussi, n'est-ce pas ? Et c'est une des raisons qui l'amène à se rendre aussi en Israël. Et c'est l'époque où il affirme que le plan de Dieu... n'est pas seulement de rendre les hommes bons, mais, dit-il, de les rendre bons à quelque chose. Et après cette fameuse campagne d'évangélisation, il va insister davantage qu'il n'avait l'habitude de le faire sur la repentance. Nous avons vu que l'essentiel de son message était l'amour de Dieu. Et finalement, dans les dernières années de sa vie, il va être amené à insister davantage qu'il ne l'a fait sur la repentance, peut-être justement parce que aussi les temps deviennent plus durs. Il revient donc à Oxford et Cambridge, et c'est au retour de ce voyage qu'il va donc fonder l'Institut biblique de Chicago pour former les pasteurs. Il y a donc parmi les étudiants qui se convertissent dans sa fameuse campagne de mission à Cambridge, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui deviendra plus tard le Lord Mayor de Londres, c'est-à-dire le maire de la cité. Et il invite quelques-uns de ses étudiants à venir aux États-Unis participer à ses camps d'été, les camps d'été qu'il a créés. Il va aussi inviter parmi les orateurs à ses camps d'été un homme aussi qui a une certaine notoriété en Grande-Bretagne, là, qui se nomme George Adam Smith. George Adam Smith est un des premiers archéologues qui a fouillé la Palestine, justement, le Moyen-Orient, disons, pour y retrouver les confirmations de la Bible, n'est-ce pas ? C'est cette époque aussi qui voit ce renouveau des études bibliques et le début de l'archéologie biblique, n'est-ce pas ? Ceux qui en sont les promoteurs sont souvent des consuls anglais ou allemand, ou même éventuellement français, mais moins, qui sont marqués par les réveils, justement, et qui ont des loisirs là-bas, à la cour des potentats arabes au milieu desquels ils se trouvent, et qui occupent ces loisirs à fouiller des sites archéologiques anciens. Et parmi les plus célèbres de cette période-là, donc, il y a ce fameux George Adam Smith, qui a écrit d'ailleurs un ouvrage qui est encore aujourd'hui un peu la Bible, la géographie historique, même si par bien des points, il est un peu dépassé. Mais quand il y a 30 ans, je faisais de l'archéologie à Jérusalem, l'ouvrage de George Adam Smith, que j'ai donné à lire d'ailleurs à Pierre David, je ne sais pas si, est encore quelque chose qui est très, 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 très utilisé. Alors, il n'est pas tout à fait d'accord en tout avec George Adam Smith, parce que Smith est un petit peu libéral, il a quelques aspects libéraux. Mais il pense que ça va faire du bien à ses étudiants d'entendre parler des découvertes archéologiques qui ont lieu là-bas. Puis, dans sa perspective d'étudier donc la Bible et la science à l'Institut Moody des sciences, ça ne s'appelle pas encore l'Institut Moody des sciences à cette période-là, mais qui le deviendra, n'est-ce pas ? Eh bien, il a cette grande ouverture d'esprit. L'année suivante, il se rend à nouveau en Israël, en Palestine à cette période-là. Et il n'a laissé aucun souvenir, aucun écrit de l'impression qu'il a fait ce voyage. Mais ce que l'on sait, c'est que ce voyage en Israël a eu un grand, grand effet. C'était un grand moment pour lui de sa vie spirituelle. Et bon, il retourne donc en novembre 92 aux États-Unis. Entre-temps, son fils l'a rejoint. Et là, ils sont pris dans une tempête. Le bateau est pris dans une tempête et Moody pense que sa carrière va s'arrêter là. C'est pas, il est calme, il est paisible. Bon, si c'est la volonté de Dieu, ben, qu'il en soit ainsi. Et il est sauvé in extremis de ce naufrage. C'est l'année où est organisée à Chicago une exposition universelle. C'est le début des grandes expositions universelles. Celle de 82 a eu lieu à Paris, n'est-ce pas ? Et en 92, c'est donc à Chicago qu'a lieu l'exposition universelle. Moody, comme tout évangéliste qui se respecte, utilise toutes les occasions pour annoncer la parole de Dieu. Il organise donc, dans le cadre de l'exposition universelle de Chicago, une grande campagne d'évangélisation. C'est un effort sans précédent dans lequel il mobilise toutes les églises des environs. Et pendant tout le temps où dura cette évangélisation, cette exposition universelle, des milliers de personnes pourront se convertir grâce à l'effort d'évangélisation entrepris par Moody. Il va jusqu'à évangéliser les détenus, il va dans les prisons, il va partout. C'est un homme qui est absolument infatigable. En 1898, éclate la guerre hispano-américaine. Les dernières possessions espagnoles en Amérique vont lui être reprises par l'intervention des États-Unis, notamment c'est la guerre de Cuba, n'est-ce pas ? Et Moody reprend du service parmi les soldats, il va évangéliser les soldats, n'est-ce pas, comme il l'avait fait pendant la guerre de sécession. Il a deux fils, William et Paul, et chose tout à fait intéressante, à Northfield aussi, il a une petite ferme dont s'occupent ses fils. Moody est un homme qui a parfois un tempérament un peu vif, et il lui arrive parfois d'être un peu cassant, un peu piquant. Et c'est un homme tellement sanctifié que chaque fois qu'il se rend compte qu'il a été un petit peu vif, eh bien, il se repent immédiatement en général. Il va aussi s'intéresser à la question de la guérison par la foi. Il a eu quelques expériences dans ce domaine-là. Et bon, il n'a pas eu le temps, ça sera la génération suivante, la génération du réveil de Pentecôte qui se penchera plus sur cette question-là. Mais Moody avait commencé à explorer toute cette dimension de la guérison par la foi. Il est bien entendu, tout en précisant que ça ne s'oppose pas du tout à la science médicale. Et pendant toutes ces années, il n'a pas accepté de traitement fixe, n'est-ce pas ? Il vivait un peu par la foi. Et il a connu parfois des moments difficiles sur le plan financier. Le futur président des États-Unis, Woodrow Wilson, assistera aussi à quelques-unes de ces réunions. Sa dernière campagne a lieu donc en 1899. Et dans le sud-ouest des États-Unis, c'est une campagne difficile. Et il avait demandé au Seigneur de s'attaquer à ce champ qu'il savait être un des champs difficiles. C'est à ce moment-là qu'une de ses petites filles, qui est âgée de 4 ans, meurt. C'est un coup dur pour lui, n'est-ce pas ? Et c'est le moment où il va partir pour cette campagne d'évangélisation qui a lieu à Kansas City, n'est-ce pas ? Au milieu d'une foule internationale, c'est en novembre qu'il part. Et quand il revient de cette campagne d'évangélisation, il est très, très fatigué, très, très fatigué. Et c'est alors que ses forces déclinent très très rapidement. Il y a l'âge, il y a la fatigue, il y a toutes sortes de choses. Et le 22 décembre, il a une vision. Il déclare, c'est pas ceci, eh bien la terre recule, le ciel s'ouvre devant moi. Et alors il fait une espèce d'expérience, un peu de la vie après la vie, vous savez. Et il voit sa petite fille qui l'a précédée dans la gloire, donc de quelques mois. Il la voit l'accueillant, se réjouissant, n'est-ce pas ? Et quand il revient à lui le lendemain, ce 22 décembre, il dit c'est pas un rêve, c'est une réalité splendide, n'est-ce pas ? Alors il comprend que pour lui le temps du départ est venu. Et il rassemble donc ses collaborateurs en leur disant eh bien je n'ai pas eu d'autre ambition à vous laisser, je n'ai rien d'autre à vous laisser que beaucoup de travail à faire. Ce sont ses dernières paroles. Et puis donc, quelques jours après, il meurt paisiblement. Et voilà ce qu'il avait écrit justement au sujet de sa mort. Il avait écrit ceci. « Un jour, vous lirez que Dwight L. Moody, de Northfield est mort. N'en croyez pas un mot. Je serai alors aussi vivant que je le suis aujourd'hui. Je serai monté plus haut, voilà tout. Sorti de cette vieille demeure d'argile pour entrer dans une demeure éternelle. Revêtu d'un corps que la mort ne touchera plus, que le péché ne souillera plus. Un corps semblable à son corps glorieux. Je suis né de la chair en 1837. Je suis né de l'esprit en 1864. Ce qui est né de la chair peut mourir. Ce qui est né de l'esprit vivra éternellement. » Moody est un homme qui a marqué son temps, n'est-ce pas, d'une manière exceptionnelle. Un homme, comme le dira celui qui a fait son oraison funèbre, l'homme d'un seul livre, la parole de Dieu, qu'il a prêché à des millions d'hommes. Et aussi un homme qui a travaillé à l'unité des Églises. Ça a été un des grands, grands moments de l'histoire de l'Église, n'est-ce pas, que les réveils de Moody, à l'instar de ceux de Finney, enfin, en quelque sorte, on peut mettre dos à dos ces deux hommes sur le même plan. Ils étaient très différents l'un de l'autre, mais ils ont marqué leur temps de la même manière. Et de Moody, ce qu'il avait donc dit lui-même quand il s'était trouvé devant Vacher en Irlande, quand Vacher avait interpellé l'auditoire, le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire par un homme qui se consacre entièrement à lui. Et Moody avait répondu dans son cœur, avec beaucoup d'humilité, je serai cet homme-là. Il l'a été. On a pu voir par le ministère de Moody ce que Dieu peut faire avec un homme qui se consacre en lui entièrement. Voilà. Bien, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus avant de terminer? Tu me prêtes juste ton crayon, merci.